Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Radio Grand-Ciel. Au micro, Yves Bastide pour l'émission « Ça rime à quoi ?» Je voudrais évoquer aujourd'hui le poète incontournable de la littérature française, à savoir Victor Hugo. Et plus précisément, une œuvre dont on a dit que c'était la seule véritable épopée française, La Légende des siècles. La Légende des siècles a été écrite, publiée en plusieurs fois, en 1859, en 1877, en 1883, soit 2 ans avant la mort du poète. Et tirée de La Légende des siècles, je vous propose tout d'abord la conscience. Lorsqu'avec ses enfants, vêtus de peau de bête et chevelés, Lilith au milieu des tempêtes, Caïn se fait enfui de devant Jéhovah. Comme le soir tombé, l'homme sombre arriva au bas d'une montagne, en une grande plaine. Sa femme fatiguée et ses fils hors d'haleine lui dirent « Couchons-nous sur la terre et dormons ». Caïn, ne dormant pas, songeait au pied des monts. Ayant levé la tête au fond des cieux funèbres, il vit un œil, tout grand ouvert dans les ténèbres, et qui le regardait dans l'ombre, fixement. « Je suis trop près, » dit-il avec un tremblement. Il réveilla ses fils dormants, sa femme lasse, et se remit à fuir, sinistre dans l'espace. Il marcha 30 jours. Il marcha 30 nuits. Il allait, muet, pâle et frémissant au bruit, furtif, sans regarder derrière lui, sans trêve, sans repos, sans sommeil. Il atteignit la grève des mers dans le pays qui fut depuis Assur. Arrêtons-nous, dit-il, car cette île est sûre. Restons-y, nous avons du monde atteint les bornes. Et comme il s'asseyait, il vit dans les cieux mornes l'œil à la même place au fond de l'horizon. Alors, il tressaillit en proie au noir frisson. « Cachez-moi » cria-t-il. Et le doigt sur la bouche, tous ses fils regardaient trembler l'aïeul farouche. Caïn dit à Jabel, père de tous ceux qui vont sous les tentes à poil dans le désert profond, étend de ce côté la toile de la tente. Et l'on développa la muraille flottante, et quand on lui fixait avec des poids de plomb, « Vous ne voyez plus rien, » dit-il à l'enfant blond, la fille de ses fils douce comme l'aurore. Et Caïn répondit, « Je vois cet œil encore. » Jubal, père de ceux qui passent dans les bourgs, soufflant dans des crayons et frappant les tambours, cria, « Je saurais bien construire une barrière. » Il fit un mur de bronze et mit Caïn derrière, et Caïn dit, « Cet œil me regarde toujours. » Enoch dit, il faut faire une enceinte de tours si terrible que rien ne puisse approcher d'elle. Bâtissons une ville avec sa citadelle, bâtissons une ville et nous la fermerons. Alors, Toubacain, père des forgerons, construisit une ville énorme et surhumaine. Pendant qu'il travaillait, ses frères dans la plaine chassaient les fils d'Enos et les enfants de Seth et l'on crevait les yeux à quiconque passait le soir. On lançait des flèches aux étoiles. Le granit remplaça la tente au mur de toile. On lia chaque bloc avec des nœuds de fer et la ville semblait une ville d'enfer. L'ombre des tours faisait la nuit dans les campagnes. Ils donnèrent au mur l'épaisseur des montagnes. Sur la porte, on grava « Défense à Dieu d'entrer ». Quand ils eurent fini de clore et de murer, on mit l'aïeul au centre, en une tour de pierre, et lui restait lugubre et hagard. Ô mon père, l'œil a-t-il disparu, dit en tremblant Sia, et Caïn répondit : Non, il est toujours là. Alors, il dit : Je veux habiter sous la terre comme dans un sépulcre, un homme solitaire. Rien ne me verra plus, je ne verrai plus rien. On fit donc une fosse et Caïn dit : C'est bien. Puis il descendit seul sous cette voûte sombre. Quand il se fut assis sur sa chaise dans l'ombre, et qu'on eut sur son front fermé le souterrain, l'œil était dans la tombe et regardait Caïn. Toujours extrait de la légende des siècles, je vous propose un poème relativement bref, mais très connu. Certains d'entre vous, peut-être, retrouveront avec plaisir les échos de leurs heures de classe en école primaire, après la bataille. Mon père, ce héros au sourire si doux, suivi d'un seul hussard qu'il aimait entre tous pour sa grande bravoure et pour sa haute taille, parcourait à cheval le soir d'une bataille le champ couvert de morts sur qui tombait la nuit. Il lui sembla dans l'ombre entendre un faible bruit. C'était un Espagnol de l'armée en déroute qui se traînait sanglant sur le bord de la route, râlant, brisé, livide et mort plus qu'à moitié, et qui disait : « à boire par pitié. » Mon père, ému, tendit à son hussard fidèle une gourde de rhum qui pendait à sa selle et dit : « Tiens, donne à boire à ce pauvre blessé. » Tout à coup, au moment où le hussard baissé se penchait vers lui, l'homme, une espèce de mort, saisit un pistolet qu'il étreignait encore et vise au front mon père en criant « Caramba !» Le coup passa si près que le chapeau tomba et que le cheval fit un écart en arrière. « Donne-lui tout de même à boire, » dit mon père. Maintenant, toujours extrait de la légende des siècles, je vous propose un passage qui est dans la dernière partie, un passage très connu. Les pauvres gens, il ne faut jamais perdre de vue avec Victor Hugo qu'il y a toujours chez lui ce besoin de donner la parole aux humbles, à ceux que l'histoire ne cite jamais dans les pages officielles. L'homme est en mer. Depuis l'enfance, matelot, il livre au hasard sombre une rude bataille, pluie ou brasse, qu'il faut qu'il sorte, il faut qu'il aille. Car les petits-enfants, enfin, ils partent le soir, quand l'eau profonde monte aux marches du musoir, il gouverne à lui seul sa barque à quatre voiles. La femme est au logis, cousant les vieilles toiles, remaillant les filets, préparant la meçon, surveillant l'âtre ou boule à soupe de poisson, puis priant Dieu, sitôt que les cinq enfants dorment. Et voici que leur voisine, une malheureuse veuve, mère, laissant ses enfants sans soutien. Ô pauvre femme de pécheur, c'est affreux de se dire : mes âmes, père, amant, frère, fils, tout ce que j'ai de chair, c'est là, dans ce chaos, mon cœur, mon sang, ma chair, ciel. Être en proie aux flots, c'est être en proie aux bêtes, au songer que l'eau pure avec toutes ses têtes, depuis la mousse enfant jusqu'au mari patron, et que le vent hagard soufflant dans son clairon dénoue au-dessus de sa longue et folle tresse, et que peut-être ils sont à cette heure en détresse, et qu'on ne sait jamais au juste ce qu'ils font. Alors, la femme du pêcheur va chez la voisine et, ne pouvant laisser ses enfants seuls avec leur mère morte, elle les ramène chez elle. Elle les ramène chez elle et elle attend avec anxiété le retour de son mari. Voici le mari qui rentre. Elle lui raconte ce qui s'est passé, elle lui raconte la mort de la voisine. L'homme prit un air grave et jetant dans un coin son bonnet de forçat mouillé par la tempête, « Diable, diable, dit-il en se grattant la tête, nous avions 5 enfants, cela va faire 7. Déjà dans la saison mauvaise, on se passait de souper quelquefois. Comment allons-nous faire ? Bah, tant pis, ce n'est pas ma faute, c'est l'affaire du bon Dieu. Ce sont là des accidents profonds. Pourquoi donc a-t-il pris leur mère à ces chiffons, c'est gros comme le poing, ces choses-là sont rudes. Il faut pour les comprendre avoir fait ses études. Si petit, on ne peut leur dire travailler. Femme, va les chercher. S'ils se sont réveillés, ils doivent avoir peur tout seuls avec la morte. C'est la mère, vois-tu, qui frappe à notre porte. Ouvrons aux 2 enfants. Nous les mêlerons tous, cela nous grimpera le soir sur les genoux. Ils vivront, ils seront frères et sœurs des 5 autres. Quand il verra qu'il faut nourrir avec les nôtres cette petite fille et ce petit garçon, le bon Dieu nous fera prendre plus de poissons. Moi, je boirai de l'eau, je ferai double tâche. C'est dit, va les chercher. Mais qu'as-tu ? Ça te fâche ? D'ordinaire, tu cours plus vite que cela. Tiens, dit-elle en ouvrant les rideaux. Les voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté.
Gasti Belzalom à la carabine chantait ainsi. Quelqu'un a-t-il connu Donia Sabine, quelqu'un d'ici ? Chanter dans ces villageois, la nuit gagne le mont Falou. Le vent qui vient à travers la montagne me rendra fou. Quelqu'un de vous a-t-il connu Sabine, ma signora ? Sa mère était la vieille homograbine dans Tekara, qui chaque nuit criait dans la tourmagne comme un hibou. Le vent qui vient à travers la montagne me rendra fou. Vraiment la reine eut près d'elle était laide quand vers le soir elle passait sur le pont de Tolède en corset noir. Un chapelet du temps de Charlemagne ornait son cou. Le vent qui vient à travers la montagne me rendra fou. Le roi disait en la voyant si belle à son neveu, pour un baiser, pour un sourire d'elle, pour un cheveu, un fendant roui, je donnerai l'Espagne et le Pérou. Le vent qui vient à travers la montagne me rendra fou. Je ne sais pas si j'aimais cette dame, mais je sais bien que pour avoir un regard de son âme, moi pauvre chien, j'aurais gaiement passé 10 ans au bagne sous les verrous. Le vent qui vient à travers la montagne me rendra fou. Quand je voyais cet enfant, moi le padre de ce canton, je croyais voir la belle Cléopâtre qui, nous dit-on, menait César empereur d'Allemagne par le Licou. Le vent qui vient à travers la montagne me rendra fou. Danser, chanter, villageois la nuit tombe, Sabine un jour a tout vendu, sa beauté de colombe, tout son amour pour l'anneau d'or du comte de Saldagne, pour un bijou. Le vent qui vient à travers la montagne m'a rendu fou.